Seigneur, je te remercie pour le bon temps de louange qu'on a eu, Seigneur. Ça fait du bien de pouvoir, avec les frères et sœurs, s'assembler d'un seul homme, d'un seul esprit, à vouloir te louer, t'adorer, te glorifier, te rendre la gloire et te revient, mais aussi renouveler toutes les promesses, tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, dans ces chants. Confesse ton salut que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Puis merci, Seigneur, de nous avoir sauvés, d'avoir fait de nous tes enfants, d'avoir payé la dette de nos péchés par le sacrifice de Jésus-Christ et de nous donner cet accès à pouvoir puiser toutes tes bénédictions qu'on a à prendre dans les lieux célestes. Merci, puisque tu vas faire encore ce matin par ta parole pour nous équiper, nous fortifier, qu'on apprenne à connaître ta volonté puis qu'on marche d'une manière qui te soit agréable. On remet nos ventres entre tes mains dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On continue la petite série sur les 10 commandements. À date, on en a vu quelques-uns. On a vu qu'il fallait pas avoir un autre Dieu devant sa face. On a vu aussi qu'il fallait pas se faire d'image taillée ni de représentation quelconque. On a vu qu'il fallait pas prendre son nom en vain. Là, aujourd'hui, on est rendu au 4e commandement, qui sont tous aussi importants que les uns que les autres. C'est sûr, Jésus a résumé ça, lui dit, « Adore Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de ta force, puis aime ton prochain comme toi-même. » Si tu vis dans cela, tu es en train de l'accomplir. Mais on va voir que quand on y va en détail, on veut décortiquer en détail les commandements, pas juste un résumé, parce qu'un résumé, c'est quand même abstrait, on sait pas dans jusqu'à où que ça va, ou ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse. C'est abstrait dans un résumé, il faut que tu y ailles des fois en détail. Puis regarder les commandements qu'on veut mettre en pratique, non pour gagner notre ciel, parce que notre ciel, il est gagné à cause de qui? À cause de Jésus-Christ, c'est lui qui a payé, c'est à cause de lui qu'on est devenu en connaissance de ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. On était à Jésus pour être pardonné, on a saisi par la foi ce cadeau-là, puis maintenant on marche par la foi, mais on veut aussi, dans notre marche par la foi, plaire à notre Dieu. Puis là, si on veut plaire à Dieu, on veut connaître ce que Dieu aime pas, puis on veut mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. Puis aujourd'hui, le 4e commandement qu'on va voir... « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Ça, c'est le titre, mais c'est à ça qu'était le but. Dieu, il veut nous apprendre aujourd'hui qu'il pense à nous autres. Il pense à nous autres bien plus que ce que nous autres, on pense à nous autres. Souvent, dans notre mode de vie, surtout dans un mode de vie de consommation, on brûle la chandelle par les deux bouts. On n'a jamais assez. On se tannera jamais d'aller travailler, faire de l'argent, mais d'avoir encore plus de biens, pour avoir encore... On veut prospérer, comme on dirait, parce qu'on est dans un pays de consommation. Puis Dieu, il pense à nous autres. C'est pour ça qu'il a mis ce commandement-là. Ça sert aussi pour lui, dans une partie, puis ça sert pour nous, dans une autre partie, ce commandement-là. Parce que nous, je dois l'avouer, s'il nous laisse aller, on fera pas attention à nous comme Dieu pense qu'on en a besoin. Dieu veut que nous déclarions qu'à chaque semaine, cette journée-là qu'on va consacrer à Dieu, que ce soit une journée sainte, sacrée pour nous et pour Dieu. C'est ça qui est le but du commandement. Dans Exode, le chapitre 20 au verset 8, c'est là qu'on peut voir où ce que Dieu a donné ce commandement-là. Ça nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ça veut dire quoi, pour le sanctifier? Ça veut dire pour le déclarer saint, ce jour-là. Puis le mot saint veut dire sacré. Ce jour-là, c'est un jour sacré. Un jour par semaine que tu vas décider de consacrer à Dieu. C'est ça qui est le but de ce jour-là. C'est en même temps un jour de repos, parce qu'ils appellent ça... le sabbat, mais le mot sabbat en hébreu, ça veut dire repos. Fait que nous, quand on parle en français, on va dire jour de repos. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, comme c'est un jour sacré pour nous et pour Dieu. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. C'est un jour que Dieu nous a donné pour nous reposer. Gloire à Dieu. C'est un jour qui est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, et tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui s'y est contenu, puis s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il l'a déclaré saint. Dans ce passage-là, ça nous dit comme Dieu, il veut qu'on considère qu'il y a une journée dans notre semaine qui soit sacrée. Ça doit être une journée qui vient de l'Éternel, qu'on doit se dire, c'est Dieu qui me dit, prends une journée off par semaine. Puis il dit, Dieu il a décidé de bénir ce jour-là. Pourquoi vous pensez qu'on est béni quand on vient à la réunion? On se repose peut-être physiquement, mais on est béni spirituellement. Puis on trouve une joie, une paix, on est heureux d'être ici, puis on reçoit la bénédiction de Dieu. Puis c'est ça qui est le Dieu, le jour consacré par Dieu, que Dieu nous dit, prends-en un, puis tiens ça comme un jour sacré. L'Éternel avait 2 buts quand il a instauré ce commandement-là. Il voulait faire, dans cette journée-là, là, une journée de bénédiction. Pour nous, puis pour lui. Il a donné la première raison, parce qu'il y a 2 buts, la première raison, c'est qu'il a donné un jour de repos, puis dans sa bonté, il pourvoit pour cette journée. Puis vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand Dieu, il en a parlé à plusieurs endroits, à plusieurs passages, là on va aller voir Exode 16, verset 29, il a parlé à plusieurs endroits pour expliquer ce qu'il devait faire, ce qu'il devait pas faire ce jour-là, puis des raisons pourquoi qu'on devait le faire. Puis Dieu il a donné comme une promesse, une bénédiction, comme on en a parlé que dans le commandement, il a dit c'est une journée de bénédiction, mais il veut plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, on comprend un peu moins cette idée-là, parce qu'on est habitué dans un mode de vie où ce qu'on travaille 5 jours, on a 2 jours pour une fin de semaine. Puis dans notre 5 jours, on a assez pour notre fin de semaine, puis il y en a même over. On a encore du lousse pour pouvoir se payer des choses. En plus de se nourrir, de s'habiller, d'être logé, on a encore pour dépenser pour des activités. Mais dans ce temps-là, c'était pas le cas. Le salaire d'une journée, c'est que tu travaillais pour ta journée pour ce que tu devais manger, ce que tu mangeais. Puis si tu travaillais pas, tu n'avais rien pour manger, tu n'avais pas de pension, tu n'avais pas d'assurance, tu n'avais rien. Puis si tu travaillais 6 jours, tu avais de la nourriture pour 6 jours, pour toi et ta famille. Mais la 7e journée est importante qu'ils travaillent. Sauf que Dieu leur a donné une bénédiction dans ce jour-là, quand il leur a demandé de mettre ça en pratique. Quand ça a commencé, là, Dieu leur a dit, vous ne travaillerez pas le 7e jour, puis vous allez avoir quand même de quoi manger. C'est ce qui s'est passé dans Exode 16, verset 29. Il dit, considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est un repos, puis c'est pourquoi il vous donne le 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est, puis au 7e jour, mais il fallait qu'ils restent chez eux, puis ils prennent ce qu'ils avaient ramassé en double le vendredi pour eux. Mais en réalité, ça n'existait pas le vendredi. C'était jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, puis le 7e. C'était des numéros, les journées. Ça n'existait pas des noms de journées. Fait que le 7e journée, il fallait qu'ils se reposent. Puis la 6e journée, il fallait qu'il ramasse en double. Dieu avait déjà commencé, puis pas n'importe où, dans le désert, à nourrir un peuple qui avait peut-être 1 million de personnes qui ont vécu pendant 40 ans dans le désert. Puis Dieu les nourrissait. Puis le 6e jour, il les nourrissait en double portion. Puis ils pouvaient en avoir pour le lendemain. Dieu, là-dedans, il voulait nous montrer qu'en 6 jours, tu n'as assez pour te nourrir. 7 jours. Il a commencé à inculquer cette pensée-là. Il dit, le 7e jour, tu la consacres à Dieu. En 6 jours, tu vas avoir de quoi manger pour tes 7 jours. Puis la 6e journée, il ramasse en double. Dieu voulait faire de ce jour-là une journée de bénédiction. Puis quand il s'est béni de Dieu, c'est que Dieu pourvoit. Quand tu pars avec l'idée de faire confiance à Dieu dans ta vie, de commencer à structurer ta vie de façon à garder une journée pour lui, tu vas toujours quand même n'avoir assez pour vivre. Faut apprendre à faire confiance que Dieu, quand il nous demande de quoi, il est capable de pourvoir comme qu'il l'a fait avec le peuple d'Israël. Fait que son premier but, c'est nous donner une journée de repos pour qu'on se repose puis qu'on travaille pas cette journée-là. Il pensait à notre corps qui a besoin d'un repos. Il a même institué dans d'autres principes de la loi des repos pour ton terrain. À tous les 7 ans, il ne fallait pas que tu cultives le terrain pour y laisser une année de repos à ton terrain pour que lui-ci se repose. Il a besoin d'être renouvelé dans ses vitamines. Aujourd'hui, les terrains sont sursemés là, au-delà de ce que c'était. Puis là, ils n'ont jamais de repos. Puis le sol est rendu excessivement pauvre. Ils sont obligés de mettre des engrais chimiques pour que ça pousse. Ils sont obligés de rengraisser chimiquement. Mais c'était pas comme ça qu'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu, tu n'as toujours pour semer, pour manger, puis tu travailles 6 jours, tu te reposes le 7e, puis tu vas toujours avoir de quoi manger, puis tu te reposes en même temps, puis tu vas même penser à ton terrain pour le laisser se reposer la 7e année. Dieu pense à notre corps. Dieu veut que notre corps se repose. Est-ce qu'il y en a qui se sentent fatigués? Il y a plusieurs raisons pourquoi on peut se sentir fatigué. Mais peut-être aussi qu'on est fatigué parce qu'on travaille trop, qu'on prend pas de repos. C'est dans le plan de Dieu d'avoir mis un commandement pour l'homme, parce que l'homme, des fois, il manque de sagesse. Des fois, c'est entre parenthèses. Entre guillemets. Ça veut dire peut-être comme souvent. La deuxième raison pourquoi il a dit de prendre cette journée-là de repos, qui est appelée le sabbat en hébreu, le sabbat, c'est une façon d'honorer Dieu en lui consacrant cette journée pour le glorifier. Si on voit ça dans Isaïe 58, mais on le voit dans plusieurs passages, mais je prends un passage entre autres. Pas parce qu'il est meilleur, pas parce qu'il est pire, mais c'est parce qu'il amène la pensée de Dieu. Ils sont tous bons, les passages de la parole. Dans Isaïe 58, le verset 13, ça dit, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, parce que c'était le saint jour de Dieu, c'est Dieu qui nous a donné cette journée-là. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en livrant pas à tes penchants et à de vains discours, parce qu'il y en a qui se donnent une sorte d'excuse pour, ils se donnent des discours pour pas mettre en pratique, ils raisonnent, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Si tu le fais, c'est comme ça que tu vas montrer que tu prends plaisir à l'Éternel. Puis je te ferai monter sur les hauteurs du pays. On en a parlé samedi, quand Dieu élève une personne. Il nous a tous pris les derniers de la société. Là. On est les balayeurs, on est les restants. On n'a pas de grands et de nobles. On n'a pas de roi ni de seigneur ici, humainement parlant, ni de grands PDG. Princesse du Seigneur, mais humainement parlant, il nous a pris dans la poussière qu'on était les derniers. Puis il commence à nous élever dans le Seigneur. Puis il dit, si tu mets en pratique ma parole, là, en cherchant pas à faire dans ce jour-là ta volonté, il dit, je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Le but de cette journée-là était qu'on prenne au minimum une journée par semaine pour la consacrer à Dieu, pour le célébrer, pour le glorifier, pour le louanger, pour lui dire qu'on l'aime, qu'on est reconnaissant pour tout ce qu'il nous donne, qu'on est heureux d'être chrétien, puis de connaître Dieu, puis de marcher avec lui, en communion avec lui. Et tout le peuple dit, Amen, gloire à Dieu. Tout ça, c'est parce qu'il est obligé de l'imposer dans un de ses commandements parce qu'il connaît notre nature. Il savait que s'il n'en mettait pas un principe, un commandement, de dire « Reposez-vous, puis consacrez-moi une journée pour garder le contact », qu'on serait parti en peur, puis on ferait comme les nations dans ce monde, puis on n'en consacrera pas de temps au Seigneur, puis on serait 7 jours sur 7 en train de travailler, puis essayer de faire de l'argent. En réalité, on peut être en train de servir un autre Dieu. Le Seigneur connaissait la nature humaine, puis a été obligé d'imposer un jour de repos et de renouvellement dans sa présence. C'est pour le bien de notre corps et de notre âme. Parce que ça a deux parties. Le fait que tu fasses pas de travail, tu te reposes dans ton corps, puis le temps que tu prends pour venir louer, célébrer le Seigneur, tu renouvelles ton âme. Fait que Dieu a prévu qu'on ait à chaque semaine un temps de renouvellement dans notre corps et dans notre âme. N'est-ce pas formidable? Mais dans l'histoire, comme on le voit dans quelques passages, le peuple juif n'a pas respecté ce commandement-là. Pour eux, ils devaient mettre les commandements en pratique afin de gagner leur salut, puis ils passaient leur temps à l'enfreindre, la parole de Dieu. Comme un exemple dans Néhémie 13, verset 15, il dit « À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat. » Foulé au pressoir, ça veut dire qu'il écrasait, mettons, s'ils peuvent écraser le blé avec des moulins à écraser pour faire de la farine, des raisins. Fait que il foulait au pressoir pendant le sabbat, rentrer les gerbes, ça veut dire qu'il faisait des récoltes, qu'il ramassait récoltes dans le grenier. Il chargeait sur des ânes. Ça veut dire qu'il paraît comme si on aurait un camion, puis on en profite le dimanche pour charger notre truck. Puis c'était même du vin, des raisins, des figues, de toutes sortes de choses. Il les amenait à Jérusalem, fait qu'il faisait du transport le jour du sabbat. Il dit, je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Fait que là, il était même marchand en plus cette journée-là. Il y avait aussi des Tyriens, de la ville de Tyr, établis à Jérusalem. Fait que c'était des étrangers qui venaient dans les portes de Jérusalem, qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat. Et dans Jérusalem, je fis des réprimandes aux grands de Juda, puis je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères, et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. On voit dans ce passage-là que le peuple juif, bien qu'il savait qu'il fallait qu'il mette en pratique pour vivre par les commandements, il n'y avait pas un cœur pour Dieu. Il était encore qu'en train de penser à leur profit personnel, à leur ambition, puis en avoir plus, puis c'est jamais assez. Puis là, il se donnait corps et âme à semaine longue, sans prendre de temps pour retrouver le contact puis glorifier Dieu, puis d'être restaurés dans leur corps et dans leur âme. Ça, c'était dans Néhémie 13, verset 15. Puis là, ça nous dit dans un autre passage, je m'éterniserai pas sur la conduite du peuple d'Israël, mais c'est juste pour nous donner une idée comment est-ce que Dieu, dans son cœur, il avait donné cette loi-là, dans le but que les gens apprennent à se reposer, qu'ils prennent soin d'eux, puis en même temps qu'ils prennent soin de leur relation avec Dieu. Puis les gens prenaient pas le temps, puis c'est pas long qu'ils se remettaient à travailler. Puis il y avait des avertissements, Dieu envoyait ses prophètes pour leur parler, parce qu'il voulait les ramener, parce qu'il sait que c'est nécessaire à l'homme d'avoir ce temps-là de repos dans son corps et dans son âme. Dans Ézéchiel 20, le verset 12, Dieu qui parle, il dit, « Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Ce but-là était pour qu'on prenne une journée pour apprendre à connaître l'Éternel. Plus qu'on demeure dans la présence de Dieu, on apprend à goûter à la présence de Dieu, on apprend la parole de Dieu, plus qu'on apprend à connaître Dieu, à connaître ce que Dieu aime, ce que Dieu aime pas. Fait que si on néglige ces moments précieux-là que Dieu nous a consacrés, c'est des rendez-vous divins. On l'a déjà dit. C'est Dieu qui nous dit, prends-en une par semaine, au moins une journée pour venir me rencontrer. C'est un rendez-vous divin. Dieu veut faire un meeting avec nous. Un rendez-vous, pas pour nécessairement pour nous chicaner. C'est pour renouveler notre contact avec, puis nous donner du repos. On va sortir renouvelé dans sa présence. Il dit, je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Puis la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois, ils rejetèrent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir. Dieu a tout fait pour sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Il a fait des miracles incroyables. Ils sont arrivés dans le désert, il les a nourris pendant 40 ans. Puis en plus, il a fait que le linge ne s'usait même pas. Il a pourvu à tout ce qu'il avait besoin. Puis là, les gens se mettaient à crier, puis à chialer, puis à murmurer, puis à désobéir à Dieu. Puis là, il leur a demandé de consacrer une journée, puis ils ont profané cette journée-là. Ils ne voulaient pas suivre la parole de Dieu. C'était de la rébellion continuellement contre ce que Dieu demandait. C'est arrivé à quelques reprises que Dieu voulait mettre un terme, puis exterminer la nation juive. Puis à un moment donné, il a voulu en repartir une autre nation avec Moïse. L'idée y est venue, il l'a pas faite, gloire à Dieu, parce que ça nous sert d'exemple quand même, que Dieu aime des choses, puis là, il demandait comme une loi de mettre ces choses-là en pratique afin de vivre par elles, puis il écoutait même pas, même si c'était salutaire pour eux. Puis à nous, qui sommes rendus à la fin des temps, que ces commandements sont encore là, il nous demande pas des faire pour gagner notre salut, il nous demande des faire pour montrer à Dieu qu'on l'aime. Dieu lui a mis cette journée-là dans le but qu'on lui montre qu'on l'aime, puis lui, il veut se révéler à nous. C'est ça qui est le but. Donc, c'est pour approfondir notre communion avec Dieu. C'est bénéfique quand les chrétiens prennent du temps pour rencontrer Dieu, rencontrer frères et sœurs. Généralement, on sort toujours béni. Pourquoi qu'on soit béni? Parce que c'est une journée que Dieu a bénie. Il répand sa bénédiction sur l'assemblée à cause de ça. Gloire à Dieu! Alléluia! Oui! C'est bénissant parce que je vous dis ça avec joie parce que je suis béni d'être là. Gloire à Dieu! Je parle pas à travers mon chapeau. Ça, c'est une expression québécoise. Puis là, on arrive avec la question dans le Nouveau Testament. Jésus n'a aboli aucun commandement. Il les a accomplis. On peut recevoir la justice de Jésus-Christ. Jésus, c'était le seul qui était injuste parce qu'il a tout accompli l'Ancien Testament. Il l'a accompli. Puis si on va à Jésus et on l'accepte comme notre sauveur, mais on est non seulement qu'on est pardonné de nos péchés, mais en plus, la justice que lui a, il nous la donne. On est déclaré des justes. Pas parce qu'on l'a tout mis en pratique, la loi de l'Ancien, non. Parce que c'est la justice de Jésus qui tombe sur nous. Dieu nous regarde, puis il voit Jésus sur nous. Puis là, on est couvert du sang de Jésus, on est couvert de la justice de Jésus. Ça va être d'autres études qui vont avoir plus tard. Mais pour aujourd'hui, Jésus, il les a pas abolis les commandements, mais il nous demande de les mettre en pratique. Parce qu'il y a une grande bénédiction pour ceux qui les mettent en pratique, ces commandements. Dans ce commandement-ci qu'on est en train de parler, dans Matthieu 5, 19, il dit, Jésus qui a dit ça, « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera puis qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Y a-tu une bénédiction de mettre en pratique ces petits commandements? Qu'est-ce qu'il va avoir comme conséquence celui qui met en pratique? Il va être appelé grand. Pas nécessairement qu'il va être plus grand en taille. Non, mais en titre. Il y a des titres l'autre bord. Il va être des grands et des petits. Il y a des bénédictions de mettre en pratique ce que Jésus nous demande. Puis il nous le dit dans ce verset-là, il les a pas abolis. Il veut qu'on les mette en pratique, qu'on enseigne à les mettre en pratique, même le plus petit commandement. Puis il y en a qui vont dire, « Oh, ça, c'est un petit commandement d'observer une journée de repos. » Fait que là, ils vont se dire, c'est pas grave. Là, ils veulent pas le mettre en pratique. Mais en réalité, on a tout à gagner de toutes les mettre en pratique parce qu'il y a une bénédiction au bout. Puis je suis sûr que vous voulez être tous bénis. Jésus, il est venu pour nous révéler la pensée réelle de Dieu sur les commandements. Souvent, on a un arrière-plan de ce qu'on a appris par la religion catholique puis par aussi les Juifs eux-mêmes, dans leur manière de mettre en pratique ces commandements-là. Puis ça peut influencer notre manière de l'interpréter aujourd'hui. Puis Jésus est venu pour nous donner la vraie manière de pratiquer le sabbat. Selon le temps de la grâce où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Dans Matthieu 2, 27, Jésus commence par une petite phrase qui veut en dire long. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Il y a deux révélations dans ce passage-là. Je vais prendre la deuxième tout de suite au verset 28. Il dit, « Le Fils de l'homme, il est maître du sabbat. » Qui est le Fils de l'homme?
Jésus-Christ.
Jésus-Christ est maître du sabbat. C'est lui qui l'a institué, le sabbat. C'est lui qui est Dieu fait homme, qui s'appelle Jésus-Christ là, mais qui était là dans le temps de Moïse, au commencement, et avant qu'Abraham fût, je suis. Puis il était là. Fait qu'il était là, il était là avec Moïse, il était là, il a toujours été là, puis c'est lui qui les donne. Le Fils de l'homme, il est maître du sabbat. Donc, Jésus, quand il nous explique les vérités du Nouveau Testament, il dit, « I'm the boss. Je suis celui qui décide comment ça doit se vivre, le sabbat. » Vous avez appris des choses, mais il y avait un but dans ce qui devait se pratiquer dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est comme ça que vous devez penser. Là, il rajuste les pharisiens, les docteurs de la loi, qu'eux autres, il était strict, puis il était sévère, puis il n'avait pas de pitié, pas de miséricorde. Il était dur avec les gens, puis il rendait ça difficile d'être quelqu'un qui obéit à la parole, parce qu'il chargeait les gens de lourd fardeau. Il rendait ça plus complexe que ce que c'était dans la pensée de Dieu. Vous allez le voir, Jésus a dénoncé les docteurs de la loi parce qu'ils rendraient trop difficile l'observation de la loi. On voit ça dans Luc 11, 46. Jésus leur répondit, « Malheur à vous! Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous n'y touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. » Dans l'interprétation de la loi, surtout au niveau du sabbat, ça, c'est encore pareil aujourd'hui, ils ont amplifié ça tellement, là, touche pas à ci, touche pas à ça, fais pas ci, fais pas ça, ou fais ça de même, fais pas ça de même, que c'est rendu extrêmement complexe de pouvoir mettre en pratique selon la pensée des Juifs. Je parle pas selon la pensée du Nouveau Testament. Je vais vous donner des exemples. Dans ce temps-là, ils ont rajouté que le chemin d'un sabbat, ça c'est dans le temps de Jésus, ça devait être 1 kilomètre maximum que tu pouvais marcher pendant le sabbat. C'était pas écrit dans l'Ancien Testament, c'est dans la pensée des Juifs de ce temps-là. Comme là aujourd'hui, par exemple, ils font rien dans la journée du sabbat, mais ils disent qu'ils font rien. Admettons qu'ils s'en vont à quelque part, puis ils rentrent dans un building, ils sont dans l'ascenseur, ils pèseront pas sur le piton pour monter jusqu'au troisième étage. Parce que pour eux, c'est travailler. Ils vont entendre quelqu'un d'autre rentrer, qui pèse sur le piton pour monter. Mais la personne s'est habillée ce matin-là, puis je suis sûr, c'était plus dur de mettre ses bas et ses souliers que de peser sur le piton. Donc, Il y a des principes qu'ils ont mis comme fardeau ces hommes en leur imposant le sabbat, faut pas que tu fasses ça, puis il faut que tu fasses ça de même. Puis là, ils rendaient ça difficile, puis il y a tellement de lois compliquées qu'ils ont dépassé la pensée de Dieu, puis ils ont mis des fardeaux qui n'étaient pas les fardeaux de Dieu. Mais ça, c'est pas ça, l'esprit de la loi, c'était pas ça, là. C'est qu'il a amplifié. Puis des fois, nous-mêmes, des fois, on peut amplifier. Puis pour comprendre c'est quoi les limites de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire, mais il faut aller lire ce que Jésus faisait. Ça va nous donner une idée. Même si les sacrificateurs y imposaient des choses terribles sur le monde de pas rien faire, puis s'ils faisaient de quoi, ils voulaient les mettre à mort, parce que c'était sévère. Les sacrificateurs n'avaient aucun problème de faire une circoncision le jour du sabbat, puis ils critiquaient Jésus de faire des guérisons. Dans Jean 7, 23, c'est Jésus qui leur dit, « Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? » Fait que là, il est en colère contre Jésus, parce que Jésus faisait une guérison. Jésus, y avait-tu réellement travaillé? Il avait juste dit, sois guéri. Y a-tu fait de quoi pour que ça ait guéri? Il a juste dit, sois guéri, il est guéri. Puis l'autre, le sacrificateur, lui, fallait qu'il installe la personne, puis il fasse l'ouvrage qu'il avait à faire. Puis c'était de l'ouvrage. C'était long, faire ça, une circoncision. Que ce soit un enfant, ou que ce soit quelqu'un qui voulait se consacrer au Seigneur, c'était de l'ouvrage. Mais pour eux autres, leur pensée était comme pas logique. Puis là, ils persécutaient Jésus parce qu'ils disaient que Jésus transgressait le sabbat. On voit ça dans Jean 7, 23. Mais Jésus, ce qu'il enseignait aux gens, surtout à ces sacrificateurs-là, puis ces docteurs de la loi, il a enseigné qu'il était guidé par le Saint-Esprit pour faire les guérisons le jour du sabbat. On voit ça dans Jean 5, le verset 12. Parce que là, dans ce passage-là, c'est le paralytique. Jésus, il a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri, il savait pas qui c'était, hein, qui l'avait guéri, qui c'était qui avait dit, prends ton lit et marche. Car Jésus avait disparu de la foule qui est en ce lieu. Là, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Là, cet homme s'en alla, puis annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri le jour du sabbat. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus lui répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Mais Jésus a voulu nous montrer dans ce passage-là, c'est que Jésus n'était pas en train de transgresser le sabbat parce qu'il faisait une guérison le jour du sabbat, puisqu'il a dit, « Mon Père agit, et moi aussi j'agis. » Jésus ne disait même pas une seule parole, ou il ne faisait même pas une prière ou une action quelconque, sans que son Père lui dise la vraie. Il était dirigé par le Saint-Esprit. Fait que quand il est en train de faire son action devant cet homme-là, puis qu'il lui dit, vois, prends ton lit, puis marche, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père qui a dit à Jésus d'y dire ça. C'est Dieu le Père qui a relevé la personne, puis qui a fait qu'elle soit en santé, qu'elle était miraculeusement guérie. Donc, c'était pas Jésus qui l'avait fait. C'était son Père qui faisait le miracle. C'est son Père qui donnait la parole. Puis c'est son Père qui accomplissait le miracle. Puis là, il essayait de dire qu'il est en train de transgresser le commandement de Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui disait à Jésus de le faire. Puis Jésus a dit, « Fils de l'homme, il est maître du sabbat. » Puis il a essayé, par ces choses-là, de leur montrer que quand le Saint-Esprit te guide pour faire une chose, même si c'est le jour du repos, tu as le droit de la faire, c'est le Saint-Esprit qui te le dit de le faire. On en fait des choses le jour du sabbat, le jour du repos. On vient à l'église, déjà, on a transgressé, parce que c'est bien plus qu'un kilomètre, si on suit la pensée juive. On vient ici, on loue le Seigneur pendant 2 heures de temps, on joue de la musique, on en fait de l'énergie bien plus que peser sur un bouton d'ascenseur. On sort d'ici reposé physiquement parce qu'on n'a pas travaillé, mais des fois, on est un petit peu... On s'est donné à fond à louer le Seigneur. On sort un peu fatigué, mais c'est une fatigue pour le Seigneur. Puis là, le Seigneur, on est béni, on sort de là restauré, ça nous a fait du bien. Mais c'est Dieu qui nous le demande, puis on le fait pour rencontrer notre Dieu, pour être béni. Puis Saint-Esprit, dans la réunion, peut faire qu'il y a une personne qui soit guérie. On va-t-il être accusé d'avoir fait une guérison au jour du repos? Pas du tout, parce que c'est Dieu qui le demande de le faire, puis c'est Dieu qui fait les choses à travers de nous. Amen. Jésus a enseigné aussi qu'il était permis de faire du bien pendant le jour du repos. On voit ça dans Marc, le chapitre 3, le verset 1. Jésus entra de nouveau dans la synagogue, puis il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Voyez-vous dans quel esprit que les gens regardaient Jésus, puis là, ils checkaient, voir s'il était pour faire une guérison dans le but de l'accuser. C'est par méchanceté. C'était pas pour apprendre plus de Dieu. C'était le côté négatif de l'affaire. Ça arrive-tu des fois qu'on est négatif, qu'on voit toujours le côté négatif chez les autres? Ça nous arrive. Si on est honnête, ça nous arrive. On tombe un peu dans la pensée que qu'est-ce qu'eux autres faisaient. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? » Il fait juste poser une question. « De sauver une personne ou de la tuer? » Là, ils gardèrent le silence parce que là, ils ne savaient plus quoi répondre. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, puis en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, puis il l'étendit, puis sa main fut guérie. Il a juste dit, étends ta main, c'était ça, comme ce que les autres essayaient de l'accuser. Pourtant, ils venaient de jaser avec Jésus juste avant, ils disent des choses à Jésus. Puis ça, c'est pas grave. Jésus fait juste dire « étends ta main », puis ça, c'est grave, puis il voulait l'accuser. Faut faire attention que ce jour-là ne devienne pas un jour pour être comme eux autres, puis qu'on soit tout en train de checker « as-tu fait plus que qu'est-ce qui est supposé la journée de repos? » Faut pas que ça devienne comme un... pas une doctrine, mais que ça devienne comme quelque chose de... qui va faire qu'on se juge, qu'on se critique, puis qu'on chiale, puis qu'on de murmure, puis de... Mais en même temps, Jésus a dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? Ben, du mal, c'est pas permis d'en faire à la semaine longue. Si on a déjà notre réponse, c'est-tu permis de faire du bien le jour du sabbat? Ça, c'est la bonne question. Parce que si tu fais du bien à quelqu'un, ben là, t'es en train de faire quelque chose. Là, t'es en train de travailler. Tu fais du bien. Là, on n'a pas la réponse dans ce verset-là, mais on l'a dans l'autre, dans Matthieu 12, 11, qui est le même passage où ce que Jésus était dans... Mais là, c'est écrit par un autre apôtre, puis lui, il met un verset de plus pour nous donner l'explication de Jésus dans tout ça. Matthieu 12, le verset 11. Il leur répondit, dans le même contexte de l'homme qui avait été guéri d'une main, il dit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira-t-il pas pour la retirer? » Vous n'avez qu'une brebis. La journée du sabbat, elle tombe dans une fosse ou même dans un puits. Tu vas aller la chercher, ta brebis? Puis tu vas la sortir de là pour qu'elle se noie. Tu n'attendras pas le lendemain, là. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Puis là, Jésus dit, il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Amen. Donc, Jésus dit, tu peux rendre des services le jour du sabbat, puis tu ne seras pas condamné par Dieu, là. Il faut faire attention à qu'est-ce que la loi disait, comment est-ce que les Juifs l'ont rendu bien compliqué, puis c'est à quoi la pensée de Dieu dans tout cela. Il ne veut pas que tu travailles 7 jours par semaine, ça c'est clair, mais il te permet de faire du bien, de faire des bonnes œuvres, de faire des choses. Ce n'est pas une interdiction absolue de respirer ou de ne pas peser sur un bouton d'ascenseur. Tu demanderas à ta femme rentre chez vous. Elle va te répondre. Lorsque nous sommes dans la nécessité, Jésus là qui parle. C'est moi qui parle, mais je parle, c'est ma phrase. Mais il veut nous dire que lorsque nous sommes dans la nécessité, il est permis même de se faire à manger. C'est quand ça, quand on est dans la nécessité? Quand on a faim.
Quand ta femme est malade.
Quand ta femme est malade. Quand t'as faim. Bon. On va voir un passage dans Marc 2, 23. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Là, c'est à borderline, comme qu'on dirait. Mais Jésus a voulu quand même nous faire comprendre la pensée du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance en Jésus. Les commandements sont là, puis Jésus, qui est le maître du sabbat, il nous a dit jusqu'à où ce qu'on pouvait aller. Les épis, c'est du blé là, qui pousse. Il fallait qu'il arrache le blé, écraser le blé, prendre la poudre, se faire une galette, puis manger. Il se faisait à manger, il avait faim. C'était une nécessité de manger, ils ont faim. Puis là, on va-tu empêcher le monde de manger? Non. Fait qu'on voit que dans le Nouveau Testament, la grâce a fait qu'on est un peu plus lousse que dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, il fallait que tu fasses ça la journée avant. Le sixième jour, tu te faisais à manger, tu ne pouvais pas te préparer à manger le septième jour. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus a vu faire ses disciples, puis il les a défendus. Pas défendus de le faire, il les a défendus quand ils se faisaient accuser par les docteurs de la loi. Les pharisiens, lui disent, « Voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? » Jésus leur répondit, puis là Jésus sert d'un passage d'un autre personnage dans l'Ancien Testament, en parlant de l'homme selon le cœur de Dieu, David. Il dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité puis qu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui, comment est-ce qu'il entra dans la maison de Dieu? » Il a pris, ça c'est du temps du souverain sacrificateur Abiathar, « Il en mangea du pain qui était le pain dans la maison de Dieu, les pains de proposition, qu'il n'ait permis qu'aux sacrificateurs de manger puis en donna à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Jésus est en train d'élargir notre vision pour qu'on arrête de se critiquer, de juger parce qu'on se fera manger le jour du sabbat, la journée du repos. C'est un repos, oui, t'as faim, tu peux te faire chauffer quelque chose, tu peux manger quelque chose, là. Faut faire attention de tomber trop extrémiste, puis critiquer, ah, il s'est penché, il a attaché son lacet, puis là, on va commencer à critiquer, à juger, puis à condamner sur toutes les petites affaires qu'on peut voir. Ouais. Mais là, on vient de voir un peu des passages, c'est pas plus expliqué que cela, mais on voit pas dans le Nouveau Testament d'autres passages qui nous mettraient comme une barrière là, pour nous dire qu'on n'a pas le droit de rien faire. Mais si on y va dans l'esprit du commandement, que ce jour-là était dans le but qu'on ait une journée de repos, qu'on n'a pas travaillé, ce repos-là, tu t'en vas le chercher dans la présence de Dieu, tu prends cette journée-là, tu la déclares sacrée, consacré à Dieu dans le but de te renouveler, pour montrer à Dieu que tu l'aimes, puis Dieu te voit, puis il te bénit, puis tu sors de là béni.
Amen.
C'est ça qui est le but. L'esprit de ce commandement-là, c'est cela. Puis là, il y a un autre petit point qu'il faut parler quand on parle de cela. Quelle journée qu'on doit prendre pour glorifier Dieu? Parce que ça avait que c'était critiqué. C'était le septième jour dans le commandement de Dieu. Puis là, aujourd'hui, nous, les chrétiens, 2000 ans plus tard, nous célébrons le Seigneur le premier jour.
Oui, parce que dimanche, le premier jour
du calendrier. C'est ça. Bien là, on va comprendre des petites nuances. Il faut faire attention pour ne pas embarquer trop d'un critique, d'un jugement. On pêche-tu en étant le premier jour? On est sans le péché? On devrait-tu tous être le septième jour absolu? Faut le comprendre, parce que là, si on ne le comprend pas, pourquoi que c'est comme ça, on peut avoir des culpabilités, puis on peut se faire dire des choses pour nous imposer d'autres choses, comme de l'eau fardeau, qui n'est pas la pensée de Dieu. Pour comprendre qu'est-ce qui se passait, comment est-ce qu'on doit le vivre aujourd'hui, mais il faut regarder qu'est-ce que les disciples faisaient dans ce temps-là. Quel jour les premiers chrétiens se réunissaient-ils? Bonne question. Premier badge de chrétien à Pentecôte, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. C'était 7 jours par semaine pendant je sais pas combien de temps, ça le dit pas, mais c'est 7 jours par semaine. Toutes les journées étaient bonnes pour louer et célébrer le Seigneur.
Amen.
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 Bon, c'est ce qu'ils faisaient. Puis ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. 7 jours par semaine. Même les premiers, juste un peu avant Pentecôte, c'était à tous les jours, pendant 10 jours, tant qu'on portait le baptême de feu, ils priaient dans la chambre haute. Fait que de prier à tous les jours, c'est normal pour un chrétien.
Amen.
C'est l'oxygène du chrétien. On a besoin de prier à tous les jours, puis on pourrait prier ensemble à tous les jours. Puis pensez-vous que Dieu est contre ça, qu'on priera tous les jours?
Non.
Pas du tout. Là, quand il nous dit dans le commandement de prendre le septième jour, consacre au moins en une par semaine pour moi. Mais si t'en consacres 7, c'est encore bien meilleur.
Amen.
Tu restes rempli de l'esprit à la semaine longue. Gloire à Dieu. Mais les Juifs de cette époque-là, ils continuaient à se réunir le sabbat, parce que c'était ça le sabbat, le sixième jour, le septième jour pour eux. Le samedi pour eux, mais c'était pas le samedi. Ça, on est mêlés, ça me mêle des fois, parce qu'on va comprendre une autre vérité après ça, un peu plus loin. Les Juifs continuaient à observer selon les rituels, puis là, les disciples, qui voulaient évangéliser, eux, les disciples, ils allaient au temple. Hein? Ça nous le dit. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Le temple, c'est le temple des Juifs. C'était pas le temple des chrétiens. Ils allaient voir au temple des Juifs et dans les synagogues des Juifs. Puis des fois, ils se faisaient prêter peut-être la synagogue pour une deuxième réunion dans la journée, ou même une école, ou même une maison pour faire des lieux de rencontre. Mais le temple, ils allaient au temple, c'est le temple des Juifs. C'était surtout le jour du sabbat, que c'est les gens étaient là, mais eux autres étaient là 7 jours au début. Puis là, les Juifs qui continuaient à se réunir dans la synagogue le sabbat, dans Actes 13-14, et eux, puis là, on voit que les Juifs qui se réunissaient le jour du sabbat, puis les disciples, ils allaient rejoindre les Juifs dans le but de leur prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils allaient évangéliser dans le sabbat. Puis là, ça dit... Et eux, étant partis de Perge, ils vinrent à Antioche, ville de Pisidie, et étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'y assirent, et après la lecture de la loi et des prophètes, les principaux de la synagogue leur envoyèrent dire, « Hommes frères, s'il y a de votre part quelques paroles d'exhortation pour le peuple, dites-la. » Fait que les disciples continuaient à aller dans la synagogue, mais dans le but d'évangéliser, à leur répandre l'Évangile. Ils se réunissaient les jours du sabbat. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se réunissaient pas aussi les autres journées, puisque dans le temple, ils étaient là tous les jours. Puis on voit dans le même passage un petit peu plus loin qu'il n'y avait pas juste des Juifs dans la synagogue, il y avait aussi des païens qui étaient là, à Antioche, des païens qui étaient intéressés de connaître la parole de Dieu, puis ils allaient dans la synagogue dans le but de se faire lire, parce que pas tout le monde qui savait lire, ils allaient dans la synagogue pour se faire lire l'Ancien Testament. Là, dans Actes 13, dans le même chapitre, le verset 42, ça nous dit, « Puis, étant sortis de la synagogue des Juifs, les gentils les prièrent qu'au sabbat suivant, il leur annonce encore ces paroles, puis quand l'assemblée fut séparée, plusieurs des Juifs prosélytes qui servaient Dieu suivirent pas les Barnabas. » Là, on lui demande d'être encore là la semaine d'après pour continuer à les entretenir de ces paroles-là. Fait que les autres y allaient dans les jours du sabbat. On voit aussi que pendant le sabbat, dans un autre passage, dans Actes 16, le verset 12, pendant le sabbat, Paul cherchait des réunions de prière afin d'aller parler de la parole de Dieu puis d'évangéliser. On voit ça dans Actes 16, 12, ça nous dit, « Et de là à Philippe, qui est la première ville du quartier de Macédoine, est une colonie, et nous séjournâmes quelque temps dans la ville, et le jour du sabbat, nous sortîmes de la ville et allâmes au lieu où ce qu'on avait accoutumé de faire de la prière près du fleuve, et nous, étant là assis, nous parlâmes aux femmes qui étaient assemblées. » Puis là, on voit qu'il y a une femme qui s'est convertie au Seigneur, puis elle a été baptisée. Mais c'est un lieu de prière, le jour du sabbat. Puis que les disciples, ils cherchaient les réunions qu'il y avait la journée du sabbat pour aller prêcher la bonne nouvelle dans partout où il y avait du monde qui avait la crainte de Dieu. On voit encore un autre passage dans Acte 17, le verset 1. Ça nous parle encore de Paul. « Puis, ayant traversé par Amphipolis et par Apollonie, ils vinrent à Thessalonique, où il y avait une synagogue de Juifs. » Il y a eu des Thessaloniciens, il y a eu des gens qui se sont convertis. Là. « Et Paul, selon sa coutume, s'y rendit, et durant trois sabbats, il disputait avec eux par les Écritures, expliquant et prouvant qu'il avait fallu que le Christ souffrit et qu'il ressuscita des morts, et que ce Jésus, lequel, disait-il, je vous annonce, était le Christ. » On voit dans ce passage-là que c'était la coutume de Paul de se réunir pendant les sabbats. Puis quand il allait dans les réunions, son plaisir était de partager du message de Jésus-Christ. Mais on voit dans un autre passage, là on parle du sabbat, parce que, pourquoi que je veux vous peser là-dessus, c'est parce qu'il y a des églises évangéliques aujourd'hui qui prêchent que c'est absolument nécessaire de se réunir le jour du sabbat, en parlant du samedi, en parlant des adventistes du septième jour. Puis il y en a d'autres aussi, comme les témoins de Jéhovah, qui sont pas évangéliques parce qu'ils reconnaissent pas Jésus-Christ, mais c'est quand même des principes pour eux autres de respecter le sabbat. Mais on voit que Paul n'était pas limité qu'au sabbat pour prêcher, puis il se réunissait avec des chrétiens le premier jour de la semaine. Dans Actes 27. Le premier jour de la semaine, ça c'était le dimanche, pour nous. Mais ça ne veut pas dire que c'était nécessairement dimanche. Vous allez comprendre après. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Puis Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Puis là, ça nous dit qu'il y en a un qui est tombé en bas du châssis. Tout ça pour nous expliquer qu'il y avait des réunions de chrétiens aussi le premier jour de la semaine. Mais j'ai déjà dit qu'il y en avait 7 jours par semaine. Paul, selon sa coutume, c'était le sabbat, mais il en faisait aussi le dimanche, ben pour nous le dimanche, le premier jour de la semaine. Puis dans 1 Corinthiens, dans un de ses enseignements qu'il envoyait aux Corinthiens, il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, le dimanche, pour nous, mettre à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée, pour recueillir des dons. Cette phrase-là est écrite comme ça, mais ça veut-tu dire qu'il faisait la réunion, cette journée-là? Ça, c'est encore une interprétation de dire, « Ah, mais vois-tu, c'était absolument le dimanche qu'il fallait se réunir. » Ce qu'il y a de problème dans ce passage-là, ça ne dit pas qu'il faisait une réunion, ça dit juste que les chrétiens, ce jour-là, pouvaient mettre leur argent de côté. Y étais-tu payé cette journée-là? Je le sais pas. Y avait-tu un envoyé cette journée-là qui allait les collecter? Je le sais pas. Mais on peut pas faire une doctrine avec ce que ça, quand ça le dit pas. Là, maintenant, ce que je veux en venir, c'est qu'il y a des versets qui nous disent qu'ils se réunissaient 7 jours par semaine. Il y en a d'autres qui nous disent qu'ils se réunissaient le sabbat. Il y en a d'autres qui c'était le dimanche, le 7e jour ou le 1er jour qu'ils se réunissaient. Sommes-nous obligés de se réunir le samedi? On peut le faire. Sommes-nous obligés de le faire? Pas obligés de le faire. Puis vous allez comprendre pourquoi. Parce que si on dit qu'on est obligé de le faire le sabbat, savons-nous quelle journée que ça tombe? Savez-vous que nous n'avons pas le même calendrier que les Juifs avaient dans ce temps-là? Le calendrier que Dieu a donné à Moïse, il était basé sur un calendrier lunaire, des mois de 30 jours, puis les mois de moins que ça. C'était pas le même calendrier que nous, puis ça a été modifié dans le cours de l'histoire. Puis pour, mettons un exemple, les Juifs, la fête de Pâques va tomber le 14 de Nissan. Ça peut tomber pour nous un mardi, comme nous, on va dire que ça tombait un vendredi. Puis là, le sabbat des Juifs tombera une journée. Le vrai sabbat pour les Juifs dans le temps de Moïse, où ce que la loi a été donnée dans l'ancien calendrier que les Juifs suivaient, c'était... Ça tombait le 7e jour, il n'y avait pas de journée, dimanche, lundi, mardi, c'était des numéros. Puis il n'arrivait pas en même temps que nous, puis les mois n'étaient pas égaux, puis il y avait des journées de moins, des journées de plus, qui fait que ça débalance. Puis on ne peut jamais savoir si on est vraiment le 7e jour du jour que Dieu a donné. Puis là, si on est à cheval sur ça, puis on pense, oh, ben là, on prend ce calendrier-là, puis on met ça le samedi pour nous. Mais on n'est peut-être même pas le septième jour de ce temps-là. Puis là, on pense qu'on a la vérité. Mais en réalité, je pense qu'il y a une erreur dans tout cela. Le but de Dieu, c'était pas pour être pointilleux pour quelle journée vous avez le faire, que plutôt que vous en preniez une journée, que vous sanctifiez. Ça peut tomber le samedi qui ferait l'affaire à tout le monde. Pour nous, c'est un samedi, parce qu'on a 2 jours de fin de semaine. Mais c'est pas obligatoire non plus que ça soit le dimanche, comme c'était la pensée catholique qui imposait un jugement pour ceux qui travaillaient le dimanche. Combien de personnes sont senties accusées de travailler le dimanche? Parce que la religion catholique, elle enseignait ça.
Ouais, mais il y a un temps où le dimanche, tout était fermé aussi. Les magasins étaient fermés.
Ben oui. Là, aujourd'hui, le monde travaille 7 jours sur 7. Quelle journée tu vas prendre? Mais dans nous, ce qui nous arrange le plus, c'est le dimanche, parce qu'on est tout en off. Ça arrive quelquefois qu'on travaille. Mais si on travaille, il faut prendre une autre journée à la place pour le consacrer. L'important, c'est qu'on prenne au moins une journée par semaine pour la consacrer à Dieu. C'est ça qui est le but de ce commandement-là. Pour qu'on puisse se reposer, c'est une journée sans travail. C'est une journée de repos qui est permis de se faire à manger quand tu as faim. C'est permis de faire du bien, cette journée-là. Pourquoi que Dieu nous le permet? Parce qu'il veut notre bien. Il veut nous bénir. Il veut qu'on se repose, puis il veut qu'on soit renouvelé non seulement dans notre corps, mais aussi dans notre esprit, dans notre âme, qu'on continue à être renouvelé et rempli de sa présence. C'est à ça qu'était le but. Et non pas d'en faire une journée, puis tout le monde se juge, se critique, puis il se condamne, puis ça détruise plus que d'aider. Puis on veut pas imiter non plus les docteurs de la loi en nous jugeant et nous condamnant, mais comprendre le message que Jésus a donné de mettre en pratique ce commandement afin de prendre une journée de repos par semaine pour notre corps et pour s'approcher du Seigneur pour notre âme. Au moins une journée, sans oublier que ça peut être 7 jours par semaine. Puis, le dernier verset qui est une conclusion de cette pensée-là, dans le Nouveau Testament, c'est le Colossiens 2,16. Ça va vous amener à faire, peut-être à vous débarrasser de certains jugements puis de critiques. Mais c'est pas pour rien que tu écris là. ce passage-là. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et quand tu es en Jésus, tu es justifié. Tu as accompli la loi. Sauf Jésus nous demande de pratiquer la loi. Mais Jésus nous en a donné aussi la définition de quelle façon ça devrait être pratiqué. Avec un esprit de liberté, tout en respectant que ce n'est pas une journée de travail, c'est une journée de repos pour nous bénir. Amen.
Amen.
Prions. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Je te remercie pour cette parole que tu nous donnes, Seigneur. Pour nous donner une vision de ta pensée sur ce commandement, pour nous amener à ce qu'on s'approche de toi, qu'on prenne du temps pour venir te rencontrer, pour venir te louer, t'adorer, te prier avec les frères et sœurs, qu'on puisse être béni parce que tu as déclaré que c'est une journée bénie qui vient de ta part. Puis je te remercie de cette bénédiction que tu nous donnes à chaque fois que nous sommes réunis. Puis merci, Seigneur, de vouloir nous donner aussi des limites dans le sens du travail pour pas qu'on soit surmené puis qu'on devienne fatigué puis que notre corps soit plus capable d'avancer. Fait qu'on remet nos ventres à tes mains, fait que tu nous donnes la sagesse puis le discernement de mettre en pratique ces choses-là pour te faire plaisir. Puis merci, Seigneur, de ce que tu fais dans nos vies, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen.